Vous écoutez
RMC. Jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver pour ce dimanche matin de folie. Les grandes gueules du sport, c'est votre émission tous les week-ends jusqu'à midi. On est évidemment très heureux de vous retrouver. On vous souhaite un excellent petit déjeuner. Nous allons nous occuper de tout. Vous avez quasiment rien à faire, juste à préparer ce petit déjeuner et à nous écouter parce qu'on va s'enthousiasmer, s'enflammer et débattre évidemment dans cette émission. On va tout d'abord débriefer cette folle dernière journée de championnat et notamment cette lutte incroyable pour le maintien. Les Verts se sabordent et filent en Ligue 2. Est-ce une catastrophe pour notre championnat? Ce sera la une des GG dans quelques instants. La Ligue 1 qui se prépare peut-être à une valse des entraîneurs. Antoine Camboire sera notre invité exceptionnel dans quelques minutes. À 10h, la Vasque Olympique sera de retour à Paris dans un mois au Jardin des Tuileries. Comme durant les Jeux Olympiques, elle célébrera chaque soir jusqu'au 14 septembre prochain, comme pour tenter de nous faire revivre les mêmes émotions. Faut-il passer à autre chose? Ce sera le bras de fer à 10h, les amis. Et ce sera un 2 contre 2. 11h, ce retour va-t-il tout changer? Après 3 défaites en France, Tony Yoka a retrouvé les joies de la victoire hier soir. Depuis de nombreux mois, il a tout changé. Il devait se relever. Peut-on parler de renaissance? Là aussi, je vous poserai la question, sans oublier les galères de Ferrari, la fête au PSG, pourquoi pas une parade sur les Champs-Élysées, et puis l'immense soulagement au Stade français. Vous l'avez bien compris, jusqu'à midi, ça va être intense. Ça va être dense, mais ça va être bon. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Louane, il se couche tard pour rien. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Ça va, mon Simon?
Ouais, tu te marres déjà.
Tu t'es couché tard ou pas?
Je me suis couché tard, mais pas pour raison de l'Eurovision.
Comment ça, t'as pas regardé l'Eurovision? Oui.
Non, pas du tout. On a gagné?
Est-ce que pour toi, 7e, c'est gagné?
Ah, 7e, c'est pas mal.
Hein, ah, bah alors c'est gagné.
Non, j'étais devant le golf.
Ah oui, ça, je suis d'accord.
Le championnat de la PGA.
Le deuxième majeur de la saison avec Mathieu Pavon qui est encore en lice. On en parlera peut-être un petit mot dans cette émission.
Peut-être. J'allais parler plutôt de Scottie Scheffler, un des plus grands sportifs de notre ère moderne. Voilà.
Ok, très bien. Il est leader, on a bien compris, c'est le numéro 1 mondial. Il y a le practice demain pour tout savoir, évidemment, sur le golf. Une grande gueule qui, contrairement à Louane, quand il était favori, lui, gagnait. David Douillet, salut David.
Oui, on a le même coffre, visiblement, non?
C'est possible. C'est vrai que non, je vais pas aller sur cette vanne. C'est pour savoir si
c'est un réel
organe ou pas, mais j'y vais pas. Septième. T'as jamais terminé septième, toi, mon David?
Si, ça m'est arrivé, mais pas sur le.
Pas mais sur pas sur la scène internationale, pas sur la scène européenne. Bien sûr. Ravi de te retrouver, mon cher David. Je sais que t'as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui, parce que tu vas te régaler avec ce conducteur. Une grande gueule qui, comme Louane, lui aussi nous a fait le coup de je joue le classement général. C'est bon, hein, on a compris. Marc Madiot, salut Marc.
Salut.
Hein, on joue le classement général et puis on termine 7e. Bah, on la connaît celle-là, ouais, dans la coupe AFDJ.
7e du classement général, notamment sur le tour, je prends.
Ah, tu prends?
Ah oui.
Ok, ce serait une victoire, ce serait un succès.
Ce serait une belle prestation.
Très bien. T'as regardé l'Eurovision hier?
Alors, j'ai regardé sans regarder, tout en regardant et en comptant les points.
Ah oui, tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire tu regardes pas les chansons, mais tu regardes les points.
Exactement.
Je fais aussi, je fais
et
pareil.
J'ai déjà oublié qui avait gagné.
Ouais.
Même si je pense que c'est le meilleur qui a gagné.
C'est l'Autriche.
Ouais.
Oui, je sais pas si c'est le meilleur. Je suis pas qualifié pour, mais bon, il a gagné.
Belle voix quand même. Oui. J'ai entendu à la fin.
Au moins, il a gagné les votes du jury, les votes du public. Voilà, on va pas débriefer l'Eurovision maintenant.
Parce que
la France, malheureusement, a terminé 7e. C'est peut-être dans le débat caché, t'as raison. Et puis, une grande gueule qui, contrairement à Louane, lui, il joue dans des biopics, C'est peut-être pour ça que sa carrière d'acteur ne décolle pas. Fred Veil, salut Fred.
Salut, ça va?
Ça va, mon Fred?
Ça va très bien.
On rappelle que des films à succès, t'en as fait, le biopic de l'abbé Pierre, tout ça, le biopic de l'abbé Pierre, et puis on s'est arrêté là parce que quand même,
Ça a marqué un petit peu,
ça a marqué les esprits. Bravo en tout cas.
DVD est en promo, je crois.
Il a bien choisi son film et c'est pour ça qu'on t'aime, mon cher Fred Weiss. Alors, événement dans cette émission, ce sera dans Stephen Brunch, tout à l'heure à 13h, vous allez pouvoir remporter vos places pour assister au Final Four de l'Euroleague qui aura lieu le week-end prochain. On vous propose de vivre l'expérience RMC. C'est le vol aller-retour entre la France et Abu Dhabi. Les transferts, 4 nuits d'hôtel avec les petits déjeuners et bien sûr vos 4 places pour assister au Final Four de l'Euroleague. Fred, c'est un beau cadeau.
C'est un cadeau magnifique.
Incroyable vraiment, quand même.
Il y a bien sûr le fait de voir le Final Four, mais aussi la place.
Et puis il y a Monaco.
Oui, bien sûr, il y a Monaco. Non, incroyable.
Cocorico, bien sûr. Inscrivez-vous dès maintenant.
Si personne ne veut le gagner, je veux bien prendre.
Alors, je pense qu'il y aura du monde quand même. Hein. Basket au 7-32-16. Basket au 7-32-16. Le grand gagnant sera donc dans Stephen Brunch avec Stephen Brun à partir de 13h.
Tu peux redire ce qu'il faut dire pour ou taper pour gagner ça?
Basket au 7-32-16.
Merci, ça me suffit.
C'est la première fois qu'on fait un code avec basket.
Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça.
E-sport. Bravo, en tout cas, et bonne chance à tous. Allez, on va débuter cette émission avec cette citation de Stendhal qui a dit un jour, le meilleur secret pour ne jamais tomber, c'est de toujours rester assis.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
La frappe et le but de Warren Scamandji. Le TFC qui fait très mal au vert, 1-0 à la 10e minute de jeu.
Et le but d'Ali.
C'est croisé, c'est dedans. Le petit filet, il n'a pas tremblé.
La frappe là, du pied gauche.
Exceptionnel, Saint-Etienne. Saint-Etienne qui s'y remet. À croire, impossible maintien, Florian Tardieu. Le but strasbourgeois et ça va discuter. Ça fait 2-1 désormais pour Strasbourg face au Havre. Deuxième but du Havre, cette fois il y est, et c'est Casimir qui vient couper au deuxième poteau.
Le troisième but toulousain. Oh, le deuxième but stéphanois, ça fait 3-2 en faveur de Toulouse.
1 minute 40 à jouer, 1 minute 40 pour sauver une saison, toute une saison. Attention, il y aura un petit accrochage. Pénalty, pénalty pour le Havre. Pénalty pour le Havre. Touré, le Paneka, c'est un fou. Il a sorti le Paneka à la 99e minute de cette 34e journée de Ligue 1. Malheureusement, Saint-Etienne descend en Ligue 2 pour la deuxième fois en quelques saisons. Et c'est le coup de sifflet final, ça y est, c'est validé. Cette victoire du Havre, elle est incroyable.
Quelle soirée vous avez pu vivre sur RMC avec tous nos envoyés spéciaux, tous nos commentateurs. Quelle soirée, malheureusement ça a mal tourné pour les Verts. C'est pour ça que j'ai demandé à la barre notre ami, notre GG Pascal Duprat. Salut Pascal.
Bonjour Jean-Christophe, salut les amis.
Ravi de te retrouver. Alors évidemment avec toi, on va parler de Saint-Etienne. Toi qui as été coach des Verts, toi qui as connu cette descente avec Saint-Etienne en 2022. Forcément on remue un petit peu le couteau dans la plaie, mais c'est important d'avoir tes mots ce matin. Les Verts n'avaient qu'une mission, battre Toulouse qui ne jouait plus rien pour espérer rester en Ligue 1. Hier soir Saint-Etienne, vous l'avez compris, a perdu encore et retourne donc en Ligue 2 un an après l'avoir quitté. Une première hein, dans son histoire, le coup de l'ascenseur. Un coup de l'ascenseur qui écorne un peu plus l'image de ce club historique, la musique qui fout les jetons. Et cette question, les Verts en Ligue 2, est-ce une catastrophe pour notre championnat? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
David Douillet?
Oui.
Marc Madio?
Non.
Fred Weiss?
Non.
Pascal Duprat?
Oui.
J'ai deux oui, j'ai trois non. Il y a donc du débat. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Aurélien Tirsain. Salut Aurélien.
Salut les GG, bonjour.
Et qui a suivi évidemment cette soirée folle, cet épilogue désastreux pour les Verts.
Oui, malheureusement pour les Verts, Saint-Etienne n'y a jamais vraiment cru, tétanisé par l'enjeu, un début de match catastrophique et à la fin une défaite logique contre Toulouse, 3-2 à Geoffroy Guichard. On craignait un envahissement de terrain et des débordements, mais les supporters sont restés calmes, abattus en fait, comme leur gardien et capitaine Gauthier Larsonneur.
Franchement, je suis au bout, franchement, j'ai même pas la force de pleurer, enfin, là, c'est éprouvant, on a eu une saison éprouvante. Tout donner, voilà, c'est comme ça et je pense que cette équipe pouvait peut-être pas faire plus.
Saint-Etienne retourne en Ligue 2, c'est la deuxième relégation en 3 ans et la très bonne opération, c'est le miracle havrais. Le Havre se maintient directement en Ligue 1 grâce à un pénalty d'Abdoulaye Touré à la 99e minute. Les Normands gagnent 3-2 à Strasbourg, une victoire inespérée pour le coach Didier Digard qui reste très stoïque, trop stoïque après un exploit pareil.
On s'est accroché, on y a cru jusqu'au bout, on a été récompensé avec un scénario fou, mais quand je vois le mental de ce groupe, je suis pas surpris.
Et en gagnant, le Havre envoie Reims en barrage, une fin de saison totalement improbable. Le club est finaliste de la Coupe de France dans une semaine contre le PSG, mais le plaisir de cette finale ne sera pas du tout le même pour le gardien Yevan Diouf.
Je pense qu'elle aura un petit goût amer et on aurait aimé pouvoir jouer cette finale en étant maintenu avant. Malheureusement, c'est pas le cas et on va devoir passer par les barrages.
Reims jouera donc sa survie en Ligue 1 contre Metz. Match aller mercredi 21 mai et retour le jeudi 29. Un calendrier réaménagé à cause de cette finale de Coupe de France.
Merci beaucoup Aurélien Tiercin pour toutes ces précisions. Voici résumé l'épilogue pour le maintien de cette folle dernière journée de Ligue 1, la 34e journée. Les Verts en Ligue 2, est-ce une catastrophe pour notre championnat? C'est l'un des principaux faits hier soir. J'ai du oui, j'ai du non. Appelez-nous évidemment supporters des Verts au 32-16. Je vais commencer avec un oui, David Douillet. Un oui franc et massif. Pourquoi oui?
Bah, je vais essayer de faire du Christophe Cessieux dans le texte. J'espère qu'il nous écoute, Christophe. Je serais beaucoup moins bon que lui, mais pour moi, les Verts, c'est un des clubs de mon enfance. Voilà, c'est 10 titres de champion de France. C'est un club qui est riche, qui est inscrit dans la Ligue 1. Voilà, c'est Geoffroy Guichard, le Chaudron, avec un public de passionnés, de fous furieux. C'est des histoires avec Platini, avec Kurkovic, avec Larquet, Rocheteau. Des matchs mythiques, les derbys avec Lyon. Moi, je suis pas très loin à quelques encablures de Lyon. Le derby Lyon-Saint-Etienne, c'est quelque chose. Et voilà, quoi. Donc, pour moi, il est le symbole un peu des clubs populaires, des clubs qu'on aime, quoi. Des clubs de province qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Et donc, le fait de perdre un club avec toute cette antériorité, cette richesse-là, je trouve que c'est dommage pour la L1 parce que, c'est mon dernier argument, même s'il est très faible, ça pourrait avoir une incidence sur l'attractivité de la L1, parce que les gens aiment ça, les clubs populaires, quand on voit Lens ou Metz ou Reims, qui ou même Le Havre, hein, qui sont des clubs aussi mythiques de la L1, descendre, remonter, ça chagrine un peu tout le monde, mais bon, c'est la dure loi du sport, c'est comme ça.
C'est la loi du sport, mais c'est vrai que c'est pas un faible argument, je trouve. C'est-à-dire que pour l'attractivité de notre Ligue 1, alors oui, Saint-Etienne, c'est pas le PSG aujourd'hui, mais c'est quand même un club qui compte, qui a compté, on espère qu'il comptera encore. Pourquoi non, Simon Dutin?
Ah, je pense qu'à l'étranger, on est dévasté déjà par cette nouvelle. Tu parles de l'attractivité de la Ligue 1. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui visaient notre championnat, qui se disent, ah là là, sans Saint-Etienne, là, ça m'intéresse un peu moins.
Ok, hein. Merci pour l'ironie. Vas-y.
Dernier titre de champion de France. Non, mais je veux dire, faut savoir de quoi on parle, parce que regarde, Reims, ils vont se retrouver en barrage. Je veux dire, c'est exactement comparable. Le grand stade de Reims, tu vois, bon, la FIFA s'est pas effondrée depuis que la Hongrie se qualifie plus pour la Coupe du Monde, quoi. Il faut pas vivre dans le passé. Évidemment que David, il est attaché à la grande histoire du sport, mais bon, il faut arrêter un petit peu avec les mythes qui tiennent plus sur leurs pattes. Le Chaudron, ok.
Mais tu vois, Reims, moi, je suis supporter
bordelais il y a deux ans, il y a trois ans. On s'est pas demandé si c'était une catastrophe pour la Ligue 1. Bon, les Girondins de Bordeaux, ils verront plus la Ligue 1 avant longtemps, et c'est un club tout aussi historique. Le dernier titre de champion de France de la Saint-Etienne, il remonte à 1981. Je crois que la Coupe de France est encore antérieure. Bon, on peut pas vivre éternellement comme ça dans le passé. Et puis, quand une équipe encaisse 77 buts en 34 journées, j'ai tendance à considérer que c'est quasiment une bonne nouvelle pour la Ligue 1. C'est la Ligue 2, leur place. Pascal, excuse-moi,
oh Simon,
77
droit,
buts,
Simon.
C'est catastrophique. Que n'ai-je pas entendu lorsque moi, dans l'after, j'avais eu l'occasion, Orneland venait d'arriver, de dire que, bon, à mon avis, ils allaient en Ligue 2, ils allaient finir. On m'a dit, mais tu ne connais rien, on leur a laissé leur chance. Hier, dans un Chaudron, justement, qui faisait le proverbial 12e homme, qui aurait dû les porter contre Toulouse, t'es pas capable de battre Toulouse quand tu joues ta survie en Ligue 1. Voilà, je pense que ça valide une série de mauvais choix et une stratégie sportive absolument.
Tu as fâché Pascal Duprat de bon matin. Vas-y, Pascal.
D'abord, j'étais fâché après toi hier soir. C'est quand tu m'as appelé, je me suis dit, il me veut du mal, Jean-Christophe.
Ah, après moi,
finalement.
Oui.
Ouais. Parce que, en fait, le 29 mai 2022, j'ai subi, alors que j'étais sur le banc, le sort qu'a subi l'AS Saint-Etienne, encore une fois, malheureusement. Donc, je suis triste depuis hier soir. Et Simon, là, il vient de me fâcher parce que ce qu'il vient de dire, c'est complètement faux. Un joueur de football professionnel, même s'il n'est pas issu du football français, de jouer ne serait-ce qu'une fois à Geoffroy Guichard, ça le marque à vie. Parce que c'est un stade mythique. Parce qu'il représente un club mythique. Et ça, c'est définitif. Quoi qu'on en dise, même si le temps a passé, même si l'AS Saint-Etienne n'est plus celui des grandes heures, c'est un club mythique. Et c'est un club populaire au même titre que l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. Point bars en France. Ok, il faut le vivre pour le comprendre et le considérer. Là où par contre, je suis d'accord avec Simon, c'est que aujourd'hui, et contrairement à il y a 3 ans, il y a un vrai projet. Ok, un vrai projet avec eh bien des investisseurs et un milliardaire, canadien. Tannenbaum, solide financièrement. Il y a un vrai projet et c'est une catastrophe pour la Ligue 1 parce que il va falloir ressortir des rangs de la Ligue 2 et c'est perdre du temps pour faire en sorte que l'AS Saint-Etienne, parce que j'y crois, retrouve son lustre d'antan grâce à cette assise financière. Je pense que le changement d'entraîneur n'a pas été bénéfique. Parce que, notre ami danois, Hornland, il a marqué moins de points que Dalloglio. Donc, ils sont peut-être précipités, mais puisqu'ils sont nouvel acquéreurs du club, ils ont voulu mettre leurs hommes forts. L'AS Saint-Etienne, sur le terrain, pour les avoir suivis, j'ai plus de voix parce que j'étais dans la voiture hier, et j'écoutais RMC, le scénario catastrophe des Verts, mené très vite 2-0, mais Saint-Etienne a pris 77 buts cette année. À la trêve, ils avaient la possibilité de changer leur défense qui est en contreplaqué, ils l'ont pas fait. Ils ont pas investi alors qu'ils ont de la monnaie et à mon avis, là ils ont commis la plus grosse erreur parce que Saint-Etienne, il s'en est encore fallu de peu pour qu'ils se maintiennent et en changeant la défense, complètement la défense qui est à la rue depuis le début de la saison, Saint-Etienne serait encore aujourd'hui en Ligue 1 avec un projet où tous les joueurs, quels qu'ils soient, de Ligue 1, allaient jouer à Saint-Etienne, se seraient enthousiasmés, comme tous ceux qui sont amoureux de la Ligue 1.
Le cri du cœur et de douleur de Pascal Duprat, Marc Madiot, Fred Weiss, pour vous, c'est pas une catastrophe. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre?
Je suis 100% d'accord avec ce qui a été dit, notamment par Pascal, sur ce que représente Saint-Etienne, l'histoire de Saint-Etienne.
Oui, mais il faut passer à autre chose, c'est ce que tu penses. C'est-à-dire qu'il ne faut plus s'accrocher à ça, quoi.
Je pense qu'il est l'heure de tourner la page et de se resituer dans le monde moderne pour Saint-Etienne et dans l'évolution moderne du football. Et on traîne à Saint-Etienne, et fort justement, sûrement, une belle nostalgie. Mais le temps a passé. Il faut se recentrer. Je pense que l'équipe dirigeante, comme le disait Pascal, a fait des erreurs, notamment au moment du mercato d'hiver. Et il fallait renouveler cette équipe en partie pour lui assurer le maintien et repartir sur un projet. Il semble, comme tu le dis, qu'il y ait des moyens pour redémarrer une belle histoire à Saint-Etienne. Il faut tourner la page, se recentrer, se refaire les gammes en Ligue 2 et remonter le mieux et le plus vite possible.
Souvent, Reims, on a un petit peu oublié parce qu'évidemment,
c'est encore plus loin.
C'est encore plus loin, donc on se dit oui, Reims, c'est vrai, c'était le grand stade de Reims et tout ça. Sauf que Saint-Etienne, est-ce que c'est devenu Reims en fait? Est-ce que voilà, maintenant, c'est plus un club de notre Ligue 1 en gros.
Non, si c'est moi, mais la question, je la comprends même pas. En fait, l'année dernière, ils étaient en Ligue 2. L'année d'avant, ils étaient encore en Ligue 2. Donc, c'est-à-dire que ils ont passé 2 ans en Ligue 2, ils y reviennent en Ligue 1, et d'un seul coup, tout le monde se dit, ils sont indispensables à la Ligue 1. Vu qu'ils ont passé 2 ans en Ligue 2. Et la Ligue 1 s'est portée tout à fait normalement, et je ne comprends pas à quel moment t'as envie de te dire, oui, en 81, on a gagné un titre. Ok. On respecte ce club, évidemment, parce qu'il y a un passé, etc. Mais en quoi ça aide le passé? En fait, la Ligue 1 n'a pas besoin de clubs avec des noms. La Ligue 1 a besoin d'un niveau. La Liga a besoin de progresser sportivement. Donc, à quel moment tu te dis j'ai un nom, je suis content?
La Liga a besoin d'histoire, de projets solides.
Parce que tu sais
c'en est un.
Pascal, tu sais ce qui se passe actuellement en Ligue 1 quand on jouait contre Saint-Etienne? On disait pas c'est Saint-Etienne, on joue contre le passé, on en a rien à faire de ça. On dit c'est un promu et c'est des points faciles. Et c'est ça le truc qu'il faut se rendre compte. Oui, encore une fois, il y a des vrais supporters. Oui, on aime ce club tous. On a tous aimé ce club à un moment donné. Mais il faut arrêter de rêver. Alors, j'ai écouté les arguments de David. Donc soit ils sont en noir et blanc, ces arguments, soit ils parlent de 2 matchs dans l'année, les derbies contre Lyon. À un moment, c'est pas suffisant.
Mais ça compte, ça compte quand même.
C'est deux matchs. C'est le storytelling sur deux matchs. Le reste, ils perdent les matchs, ils sont pas bons. Ils prennent 77 buts. C'est ça.
Et attends, mais depuis 1984, depuis 40 ans, ils ont passé un quart du temps en Ligue 2.
Mais oui.
Ils sont pas non plus.
Mais exactement.
C'est leur place régulièrement quand même.
Ok, on va poursuivre le débat avec vous les GG. Pascal Duprat est venu à notre rescousse. Ce n'était pas pour te faire mal, évidemment, Pascal, mais on avait envie de t'entendre tout de même ce matin, toi qui connais bien ce club par le passé, qui l'a connu de l'intérieur. Donc tu vas nous en dire encore quelques mots. Et puis sachez que dans une dizaine de minutes, Antoine Camboiré sera notre invité. Lui s'est sauvé. Autre club historique, il a réussi à se sauver. Et vous savez que c'est un ami de la bande, donc il sera avec nous pour nous parler de tout ça. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les Grandes Gueules du Sport avec ce matin David Douillet, Marc Madiot, Fred Weiss, Simon Dutin et Pascal Duprat qui est notre invité durant quelques minutes, notre GG pour parler des Verts en Ligue 2. On va poursuivre le débat dans quelques instants, juste vous donner un rendez-vous dans 10 minutes. Nous serons avec Antoine Camboiré qui a sauvé le FC Nantes. Évidemment, je sais que vous vouliez l'avoir dans cette émission. Marc Madiot, tu voulais lui rendre hommage dans cette émission, donc je me suis dit, on va l'inviter.
Comme ça, tu seras
très heureux. Ce sera dans quelques minutes. Restez bien avec nous. Allez, restons sur cette question. Les Verts en Ligue 2, est-ce une catastrophe pour notre championnat? François nous appelle au 32-16, supporter des Verts, j'imagine. Bonjour François.
Bonjour à vous, supporter des Verts, mais niçois d'abord. Supporter des Verts.
Félicitations déjà pour hier pour Nice, quatrième.
Désolé.
Hier matin, c'est un truc qui me fait marrer. Vos deux comiques, là, ils ont dit que c'était Lille qui allait passer.
Oui, et dans les paris RMC, ça j'ai bien noté. Je suis bien d'accord.
Moi j'ai bien noté aussi.
Ils seront virés, François.
Alors moi je vous appelle, j'ai 68 ans, j'avais 20 ans en 76, vous voyez. Je suis même allé, moi de Nice, je suis même allé un jour voir Richard aller voir contre Liverpool, contre Piazza, il est à genoux devant l'arbitre qui lui met un carton jaune qui va le priver du match retour à Liverpool, où on se fait par cercle-là, où je mets le troisième, avec un but de bâtonnet des 35 mètres extraordinaire. Alors j'ai appelé, c'est pas une catastrophe. Moi, j'étais supporter, mais je connaissais Rocher, je connaissais Garonner, je connaissais Herbin, le président, le recruteur, l'entraîneur. Je peux vous citer l'équipe entière. Maintenant, demandez, hormis peut-être les Stéphanois, quelqu'un en France qui connaît, je sais pas, nous on avait Larquet, Sinaïguel, Bâtonnet, Rochoteau, les frères Révéli, j'en passe. Et quand ce truc, il nous rattrape, l'attaquant du Dynamo de Kiev, là. Je sais plus son nom.
Blokhin.
C'est Lopez. Lopez le rattrape, le tacle sur la contre-attaque en marque. Voilà, ça, c'était des grands moments. Saint-Etienne, excusez-moi l'expression un peu triviale, ils nous font plus bander.
Bon, au moins, c'est clair. Non, mais c'est clair, François. Non, mais c'est vrai que.
Alors, classe, non
c'est maintenant cette équipe-là. Et en plus, je les remercie doublement, c'est Étienne. Ils ont permis à Nice d'en mettre 8. Eh oui, c'est pas une catastrophe. C'est peut-être même eux qui passent le championnat.
C'est vrai que le Nice-Saint-Etienne, le 8-0 pour Nice, qui a beaucoup compté en fin de saison à la différence de but, c'est vrai que pour toi, ça devait être un match particulier, François.
Vous étiez peut-être pané. Mais le Nice-Saint-Etienne, le 76, avec l'aide de M. Wurst, eh bien, Saint-Etienne, il nous prive de la victoire.
Non mais François, tu donnes de l'eau à Montmoulin et je vais aller voir Pascal Duprat, reste quelques instants avec nous. Pascal, justement, quand on entend les supporters des Verts, ils nous parlent des choses il y a 40 ans. Est-ce qu'on n'est pas trop en train de vivre dans le passé? Et est-ce que tu n'as pas l'impression...
Il faut le vivre de l'intérieur. C'est un spectacle permanent, Geoffroy Guichard. Tous les 15 jours, t'as un spectacle au stade. Il faut voir toutes les familles qui viennent. Il faut voir le pouls de la ville qui bat au travers des résultats des Verts.
Oui, donc c'est pour Saint-Etienne que c'est une catastrophe.
Pour le foot, mais quand tu parlais du derby, OL Saint-Etienne, tu peux pas t'imaginer le bien que ça fait au foot français. C'est comparable à l'OM contre le PSG.
Je suis d'accord avec toi, mais ça fait rien.
Mais en plus, il faut là rendre hommage malgré tout à Romeyer et Cayazo, parce que beaucoup de propriétaires de clubs se soucient pas quand ils veulent vendre de des boîtes qui les rachètent. Et ils ont vendu un groupe extrêmement costaud, Kilmer Sports Ventures. C'est un vrai groupe extrêmement costaud, rompu aux joutes du sport, qui connaissent les rouages et qui vont faire que Saint-Étienne va retrouver peut-être pas son lustre d'antan, mais une place et un rang en Ligue 1, parce que c'est une place incontournable. C'est pour ça que je peste ce matin quand j'entends Marc, toi qui es tellement pondéré, qui a tellement d'expérience,
mais je partage ce que tu dis, je
conneries ce que... comme tu balances que Saint-Étienne ça ne sert à rien.
Tu ne m'as pas bien écouté. Je n'oserais jamais dire ça de Saint-Étienne.
Quand j'entends Simon baver comme il bave sur Saint-Étienne, ça me prend aux tripes. J'ai l'impression de revenir il y a 3 ans de cela. Ça m'a fracassé.
Mais justement,
Pensais y arriver.
Pascal.
Saint-Étienne doit être en Ligue 1. Et aujourd'hui, évidemment, je pense que le projet est cohérent. Certainement l'un des projets les plus cohérents de Ligue 1.
Justement, c'est Pascal, tu me dis ça t'a ramené à mai 2022. Je rappelle ce qui s'est passé. Évidemment, Saint-Etienne est descendu, ça vous le savez, mais les circonstances ont été assez incroyables parce que c'est un barrage face à Auxerre, un barrage qui vous emmène au tir au but. C'est à la suite de cette séance de tir au but que vous sortez. Le match est à huis clos, je crois, mais les supporters...
Non, une tribune.
Une tribune, mais les supporters suspendus. Envahissent le terrain. Enfin, c'est un chaos total. Est-ce qu'hier soir, ça t'a ramené à ça? Et c'est un vrai cauchemar. Et alors qu'hier, on n'a pas vu de cauchemar, heureusement d'ailleurs, mais est-ce que Saint-Étienne est en train de tomber dans l'oubli avec ces deux événements?
C'est peut-être au travers des comportements des supporters hier soir, et si on les compare à ceux que j'ai vécu en 2022, c'est pas les mêmes. Pourquoi? Parce que même si c'est pas du fatalisme, je crois pas, mais ils sont apaisés parce qu'ils savent que le club aujourd'hui est serein. Ils savent où ils vont, même s'ils descendent en Ligue 2, même si vous allez vous moquer parce que je dis ça. À l'époque, il y a 3 ans de cela, on savait pas où ils allaient. C'était la Saint-Étienne, franchement, à vivre de l'intérieur. J'en ai jamais parlé, j'en parlerai jamais, parce que je veux respecter ce club. Mais croyez-moi, des adversaires, davantage, à l'époque, il y avait encore 20 clubs, davantage que les 19, il y en avait à l'intérieur beaucoup, croyez-moi. Beaucoup. Alors je suis pas à la Saint-Étienne de l'intérieur aujourd'hui, mais ça semble être apaisé, ça semble être ensemble vers une même direction aujourd'hui, les Verts. Et c'est pour ça que c'est dommage, parce qu'en fait c'est perdre du temps. On sait bien sûr quand on descend, malheureusement, on sait pas forcément quand on va remonter.
Mais t'as plus confiance aujourd'hui.
La Ligue 2 est très, très difficile. Oui,
okay, j'ai plus confiance aujourd'hui. Fred Weiss.
Oui. Moi je l'ai jamais caché, je suis un énorme fan de Pascal Dupraz et j'adore son discours et j'aime vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas une façade. On a déjà discuté.
Il le sait.
Sauf que quand je l'entends parler à la fois au passé ou au futur, je me dis il ne parle pas de présent. Et en fait, on parle de présent pour la Ligue 1. Et c'est ça le problème. Je pense que dans la temporalité, on n'est pas bon. C'est-à-dire que oui, dans le passé, ça a été magnifique. Oui, dans le futur, peut-être. Alors oui, le projet, tu le connais mieux que moi. Et peut-être que ça sera magnifique.
Fred,
sauf que
Dieu me prête pas vie. Que Dieu me prête vie. On se retrouve à la
peut-être.
Vous m'invitez dans 10 ans. La Saint-Étienne sera au-dessus.
Mais je l'espère pour toi. Et tu sais, en plus, je ne t'ai pas caché le fait que mes neveux sont fans de toi et de Saint-Étienne. D'accord. Donc je suis plutôt amoureux de ce club.
Ça va le
d'accord
tirage. Hein.
Mais à un moment, je veux voir du présent, Pascal. Je veux voir du présent. Je veux voir une équipe qui change sa défense quand il y a besoin d'échanger, qui font les efforts, qui n'est pas une place où tu vas pour gagner parce que c'est trop simple. Refaisons ce débat dans 5 ans. Mais oui, mais moi j'ai pas de boule de cristal, Pascal. On nous pose la question si à l'instant T c'est une catastrophe pour la Ligue 1. Évidemment que non, parce que franchement. Et ils n'ont pas mérité d'y aller.
Attends, après, si, ils sont quand même 10 fois champions de France.
Oui, mais en 2008,
on est dans la génération du
présent.
Tout de suite, de l'immédiat, etc.
Présent, on appelle ça le présent.
Un projet, et Pascal l'a bien décrit, ça se construit. Il faut une solidité. Là, aujourd'hui, on a des prémices avec un investisseur qui a les reins solides pour créer l'avenir. Oui, c'est une catastrophe pour la F1 parce qu'ils vont perdre du temps.
Pour la
Ligue 1, parce que, excusez-moi, mais quel est le derby qui soit aussi significatif que le Lyon-Saint-Etienne? Il n'y en a pas d'autres. Voilà, les autres, c'est les faux derbies. Donc, oui, c'est une catastrophe parce que on aurait pu avoir un club comme Saint-Etienne solide de par son passé, mais aussi de par son présent et son avenir, qui est en train de patiner et qui recule. Il y a plus d'enrichissement de la Ligue 1. C'est pour ça que c'est une catastrophe. Bien sûr que c'est une catastrophe. Et puis, je vais vous dire un truc. Moi, des clubs qui sont issus de territoires compliqué, je parle de l'économie, qui se battent pour que leur équipe soit là toujours, parce que c'est le seul truc qu'ils ont dans leur quotidien. Ils sont là dans le stade, ils vivent à travers le stade. Ouais. Le stade leur donne espoir, leur donne une motivation quasiment de vie. Ben ça, quand on le perd, excusez-moi, c'est pas de l'histoire, c'est du contexte et c'est du présent.
Mais t'as tout à fait raison, David. Mais à Saint-Étienne comme ailleurs, l'horizon et Bordeaux, l'horizon social, culturel, affectif de beaucoup de gens, il est rempli par l'actualité de leur club de foot. Mais il n'y a pas qu'à Saint-Étienne. Moi, je voulais à Pascal, oui, puisqu'on parle de maintien. Moi, j'ai pensé à toi hier, Pascal, parce que la Panenka de Touré pour Le Havre à la dernière seconde, ça m'a fait penser au coup franc de Bodiger qui t'avait permis de
avec Toulouse.
Et je trouve que c'est des buts qu'on peut mettre sur le même plan dans l'histoire du maintien.
Les copains,
je pourrais juste ajouter un petit mot.
Ah, vraiment 10 secondes, mon cher Pascal, vas-y.
10 secondes. Le projet des Verts, c'est plus cohérent que le projet de l'OL, malgré le fait qu'ils descendent en Ligue 2.
Eh ben, t'as bien fait de le rajouter parce que c'est assez fort ce matin, c'est assez puissant. Ouais. Et je retiendrai aussi cette phrase, arrête de me lécher les bottes, je suis en pantoufle. Signé Pascal Dufras, qui était extrêmement en forme ce matin, que l'on adore. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Pascal.
Félicité Antoine pour son maintien, bravo à lui.
On t'embrasse très fort. Bah justement, bisous. Antoine Camboiré nous attend. Il est déjà là, on va l'accueillir dans une poignée de secondes. Un autre club historique, Nantes. Lui a réussi à sauver le FC Nantes et je sais que Marc Madio, tu voulais lui rendre hommage ce matin. Donc tu vas pouvoir discuter avec lui. C'est un ami de la bande, c'est un ami de l'émission. Antoine Camboiré dans quelques instants sur RMC. À tout de suite. Et puis pour les Verts, Jean-Michel Larquet sera l'invité de Stephen Brunch à partir de 14h autour de Stephen Brun pour revenir évidemment sur cette descente des Verts. Merci encore à Pascal Dupraz et on se retrouve avec Antoine Camboiré dans quelques instants.
RMC.
Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble.
Les grandes gueules du sport.
Ce qu'on va voir, c'est des gens qui vous aiment.
9h midi.
On n'a besoin que de nous pour se maintenir. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles.
Jean-Christophe Drouet.
Ah, c'était un immense Pascal Dupraz il y a quelques instants qui a fait le show pour parler des Verts et malheureusement de la descente de Saint-Etienne en Ligue 2. On va parler avec Antoine Camboiré qui est notre invité exceptionnel dans quelques instants du maintien du FC Nantes. Je vous donne ce rendez-vous à partir de 10h. On va ouvrir le dossier Vasque Olympique. C'est officiel depuis cette semaine. La Vasque Olympique est de retour à Paris. Est-ce qu'il faut tourner la page à un moment donné, mes amis les GG? Ce sera un 2 contre 2. J'ai deux oui, j'ai deux non. Ce sera le bras de fer à partir de 10h, mais tout de suite le FC Nantes. Antoine Camboiré, un ami de l'émission, est avec nous. Salut Antoine.
Salut, salut à tous.
Salut. Merci d'être avec nous. Félicitations pour le maintien du FC Nantes hier. Évidemment, ça a été extrêmement compliqué, mais une solide et belle victoire face à Montpellier, 3-0. Antoine, on est ravis de te recevoir. Je sais que les GG ont pas mal de questions à te poser. Je donne la parole à Marc, parce que tu voulais en plus en parler dans cette émission. Pourquoi tu voulais parler d'Antoine ce matin?
Je voulais parler d'Antoine tout simplement parce que ça fait plusieurs saisons maintenant qu'il sauve la vie au FC Nantes. Il a des échanges tendus avec le propriétaire et président du club. Il est toujours fidèle au poste et quelles que soient les circonstances, il sauve le club année après année. Alors moi, j'avais une petite question. On a découvert la statue de Bernard Tapie à Marseille hier. J'espère, je souhaite, et c'est à peine une boutade, j'espère que Antoine, tu auras ta statue à Nantes un jour.
Non, Marc, alors jamais de la vie, et puis ça c'est le cadet de mes soucis. Non, mais moi j'ai un travail à faire, et donc bien sûr que j'y tiens beaucoup, mais parce que aussi c'est mon club de cœur.
Ben voilà.
C'est ce que des fois je dis à mes joueurs quand je suis des fois très en colère. J'ai dit, les mecs, vous allez pas donc quitter le club ici et me laisser moi, parce que moi je vais finir mes jours ici à Nantes. Donc avec un club en Ligue 2, quoi. Donc c'est interdit. C'est pour ça que des fois, je monte un peu le ton, mais bon, trêve de plaisanterie. Voilà, c'est vrai que moi c'est mon métier. Je suis payé pour ça, et c'est vrai que je me rends compte que c'est de plus en plus dur tous les ans. Et ça a été une saison très éprouvante. Peut-être parce que on vient de finir là, donc il y a quelques heures. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas été aussi fatigué que ça, aussi épuisé parce que donc je pensais à un moment donné même qu'on allait y passer parce que t'as des moments de doute, hein, des moments de même de peur parce que tu vis ça donc à fond et je me rends compte que l'entraîneur que je suis t'es souvent seul face à tes choix et donc il faut assumer. Puis la pression est de plus en plus forte, voilà. Donc on fait les beaux comme ça, mais voilà, on sait que pour la famille c'est pas facile, voilà. Pour les gens qui sont proches c'est pas facile, mais voilà. Ça a été une année difficile, mais je suis tellement heureux et tellement fier parce que donc on a réussi encore une fois à réussir à maintenir notre club en Ligue 1 et la saison prochaine de savoir que Nantes va participer au championnat de France de Ligue 1, c'est encore une grosse satisfaction.
Oui, un soulagement, et quand on t'entend, parce que c'est fort ce que tu nous dis Antoine ce matin, Antoine, est-ce que est-ce que tu as réussi hier soir à être heureux, ou non, tu étais juste vidé?
J'ai pas pu être heureux, c'est fou, parce que, alors je m'étais dit, comme on a tellement tremblé, qu'à la fin, je vais pouvoir crier donc ma joie, et puis l'exprimer, et puis le montrer surtout, hein. J'ai pas pu. Alors peut-être parce que fatigué. Peut-être aussi parce que j'ai vu l'ambiance à la fin de match à raison d'ailleurs de voir nos supporters mécontents l'exprimer de cette façon-là. Donc bien sûr que ça gâche aussi. Et moi je respecte leur façon de communiquer, quoi, leur façon de faire. Et puis aussi parce que je me suis retrouvé en conf de presse avec les journalistes qui te bassinent de questions, donc t'as pas envie d'entendre parce que t'es fatigué. Et puis ils te racontent l'histoire en te disant que c'est pas possible, faut arrêter donc de jouer comme ça, on est nul, on n'est pas bon. J'ai envie de les dire, les mecs, vous savez quoi, on aurait pu être 16e, on aurait pu être 17e, 18e, mais 16e être relégable, aujourd'hui, voilà, en faisant une mauvaise saison, on est 13e, quoi. Donc, lâchez-nous les baskets et puis laissez-nous partir en vacances et puis on parlera de ça une fois à la rentrée.
Et tu parlais des tribunes, hein, on y reviendra peut-être avec cette banderole, notamment de la tribune Loire. C'est vrai que ça n'a pas été qu'une soirée de fête à Nantes, ça peut paraître étonnant. On est sauvé, mais parfois, on est quand même déçu ou on est dépité, alors que Nantes, on le dit ce matin, quand on voit ce qui se passe avec Saint-Etienne, Nantes est en Ligue 1 la saison prochaine, et c'est le message d'Antoine Camboire ce matin dans les grandes gueules du sport. Il y a Fred Weiss qui veut te parler.
Oui, bonjour Antoine, et félicitations. C'était une saison compliquée. Il y a eu beaucoup de rumeurs. On va pas revenir sur le sujet, mais il y a de nouvelles rumeurs déjà par rapport à la continuité à Nantes. C'est quoi ton avenir? C'est quoi tes ambitions et comment tu sens le futur, quoi?
Comme j'ai répondu tout simplement, moi j'ai un contrat encore d'un an. Et bien sûr que moi j'ai envie de l'honorer. J'ai travaillé pour gagner ce contrat-là. Donc, et en plus c'est à Nantes. C'est chez moi. Donc voilà. Mais après, je suis donc bien sûr, dans l'attente de ce que va décider le président, ou de ce que vont décider les dirigeants. Voilà, mais moi aujourd'hui j'ai un contrat et c'est simple, hein. Moi je suis très très cash avec les gens dans ma façon de m'exprimer, mais aussi dans ma façon de faire. Donc je suis là et si on est content de moi, on continue. Puis si on me dit stop, après. La vie, elle est belle, hein. La vie, elle continue, hein.
Et Antoine, moi, j'ai juste.
Non, juste, ça veut dire qu'Antoine, t'as un doute? Parce ouais, que
il y a toujours un doute.
Ouais, non, mais quand on sauve son club, bon.
Oui, mais alors, moi, j'ai pas de doute, moi, sur le fait que. Mais parce que ça a été une saison, tu l'as dit, Fred, très compliquée. Donc, j'ai failli donc être débarqué au mois de décembre, comme ça. Donc, ça, oui, c'était à propos à cette période-là. Donc voilà, c'est pas passé loin. D'après ce que j'ai compris, je suis resté en poste, donc on a pu faire le boulot. Et puis là, j'entends encore, donc voilà, et ce sont les questions incessantes que m'ont posées hier. Donc est-ce que donc j'ai envie de continuer? Mais j'ai dit, mais pourquoi? C'est pas une question. J'ai un contrat. Après, la question, s'ils veulent la poser, mais qu'ils la posent aux dirigeants, qu'ils la posent à Monsieur Kita. Mais moi, aujourd'hui, j'ai un contrat, et puis je suis très content demain si je dois continuer donc à travailler ici, puis surtout à mener cette équipe, quoi, à mener ce club pour encore une fois aller chercher le maintien. Et par contre, on aimerait faire plus, mais ça va aussi dépendre des moyens qu'on aura pour la saison prochaine.
Exactement. Et Antoine Camboire est avec nous dans les grandes gueules du sport. Et c'est vrai qu'on te remercie, Antoine, d'avoir accepté cette invitation. Tu viens de temps en temps nous passer le bonjour. Et c'est vrai que c'était important pour les supporters nantais que tu puisses aussi bien nous dire un mot ce matin. Simon Dutin et peut-être David Douillet pour Antoine Camboire.
Oui, bonjour Antoine et félicitations évidemment. C'est un Bordelais en plus qui vous adresse des félicitations.
Bah, tu t'es rabattu sur le FC Nantes maintenant.
Oui, sur le TFC, on essaye d'aller.
Non, voilà. Le FC Nantes.
Non, le FC Nantes évidemment. Antoine, si on se pose la question, c'est que en effet il y a des changements qui vont s'opérer, qui ont déjà été annoncés dans l'organigramme. Je pense à Philippe Mao, le coordinateur sportif, qui va retourner à la formation. Et bon, quand on n'est pas un suiveur du FC Nantes, on peut justement se demander est-ce que Antoine Camboire s'entendait bien, travaillait en concorde avec cette personne. Est-ce que c'est une décision qui est de nature à peut-être à relancer des perspectives, ou au contraire vous inciter à vous dire que l'avenir sera plus compliqué, que ça va être plus compliqué de travailler, que le projet va peut-être changer, voilà.
Mais moi, alors je vais être très clair avec vous, je l'ai appris moi à la fin du match
hier soir,
que Philippe Mao était écarté du groupe professionnel, puis apparemment, si j'ai bien compris, donc il sera mis à la disposition de l'académie, quoi. Voilà. Il ne quitte pas le club. Mais après, une fois que j'ai appris ça, hier j'avais qu'une envie, c'était donc à la fin du match, rentrer chez moi, c'est ce que j'ai fait. Puis me retrouver seul là, parce que mon épouse était déjà au lit, quoi, à 2h du matin. Mais après, ce qui va se passer après, je ne sais pas. Moi, je sais simplement que j'ai un contrat. Et là, donc, j'ai donné donc les feuilles aux joueurs pour la reprise. Voilà. Mais ce qui va se passer là, ce sont les questions que les journalistes vont poser, que les dirigeants peut-être doivent se poser entre eux.
Mais c'est pas ton business. Concerne.
Mais c'est pas moi. Non seulement c'est le cadet de mes soucis, mais moi j'ai qu'une idée en tête en ce moment. C'est de partir, couper avec le foot et puis...
et puis te reposer chose, un petit peu après une saison à Racing.
Je suis venu aujourd'hui et je le fais, c'est le seul, c'est avec vous parce que voilà, Jean-Christophe est un ami, donc voilà, mais sinon, le reste, je serai là à la reprise et puis prêt à repartir au combat. Et puis si on me dit Antoine, c'est fini, ben voilà, on se serre la main, vous me donnez ce que vous me devez là, et puis après, et puis la vie elle est belle, quoi. Mais je dis encore, moi aujourd'hui je suis l'entraîneur du FC Nantes et j'ai un contrat d'un an et je serais très content de continuer l'aventure. Mais si demain donc on décide autrement, ben on assume toujours. Toujours, faut assumer.
Et on le connaît, justement, Antoine Camboire, il assume toujours. Et on est très heureux de t'avoir avec nous ce matin. Peut-être une question aussi avec David Douillet. David, pour Antoine.
Ouais, Antoine, sans vouloir t'embarrasser, mais moi, ça m'inquiète un petit peu ton discours, parce que... Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu connais pas les moyens dont tu vas disposer l'année prochaine pour constituer une nouvelle équipe, ou en tout cas ton recrutement, c'est bien ça?
Oui, bien sûr. Ah oui, ben oui, parce que donc on n'a pas encore. T'imagines, on a joué le maintien jusqu'au dernier match. Donc à partir du moment où tu fais ça, tu joues le maintien, donc il est aucunement question de discuter de l'avenir. Alors bien sûr qu'on a, il y a 3 semaines, 1 mois, on avait parlé un tout petit peu, puis dès comme ça a commencé à se tendre, donc on a dit stop. Et puis là, pendant les vacances, là, je sais que je vais avoir Franck Kita, on va pouvoir échanger, discuter donc de
comment. C'est ça donc, qui m'intéresse en fait. Comment ça va se passer? Parce que on sait que vous avez des fortes personnalités, que quelquefois ça. Il y a beaucoup d'électricité dans l'air, ça se passait comment, à ton avis?
Alors, pour être très clair, aujourd'hui, avec le président, donc on a pratiquement plus de contact. Voilà, on se voit, on se dit bonjour, il y a du respect.
Wow.
Mais voilà, donc voilà, et puis par contre, c'est Franck Kita qui aujourd'hui donc fait le lien. Donc là, on va se voir là la semaine prochaine, on s'est dit de toute façon sur Paris. Donc voilà, on pourra se voir et puis constituer donc un peu les contours de l'équipe, et puis surtout de voir donc en fonction des départs quelles sont les arrivées, mais surtout quels sont les moyens financiers qu'on aura. Mais moi après je fais en fonction de ce qu'on va me donner. Après je me connais, c'est-à-dire que je vais pas demain donc vouloir donc imposer donc et puis mettre la pression au président ou à Franck Kita en disant donc moi je veux plus de moyens. Ils feront avec les moyens qu'ils ont, puis moi je ferai avec ce qu'on me donnera. Voilà, mais moi par contre, une fois que on va démarrer la saison, j'aurai un groupe avec des jeunes que j'ai envie de faire monter là, parce qu'il y a des bons jeunes au FC Nantes. Enfin, donc voilà. Et puis après, voilà, préparer de la meilleure façon cette saison avec les meilleurs joueurs qu'on aura. Et puis espérer, donc voilà, faire une bonne saison. Voilà. Mais le reste, moi, je peux pas t'en dire plus. Hein.
En tout cas, Antoine, on est très heureux pour le FC Nantes, on est très heureux pour toi et on est très heureux de t'avoir accueilli ce matin avec les grandes gueules du sport. Marc Madiot voulait absolument te parler et te féliciter. Donc merci beaucoup, Antoine.
Juste un petit mot. Ce qui est important, c'est que ben pour la plupart, là, vous avez été aussi des grands sportifs hein, dans vos disciplines. Ce qui fait bien, donc, après une fin de saison comme ça, là, donc, c'est pouvoir couper. Donc, je vais avoir 4 semaines, oui. Un mois complet pour couper. Ça va me faire du bien. Puis quand je reviendrai, normalement, j'aurai repris de l'énergie. J'espère surtout.
Une merci.
Eh ben, on te souhaite évidemment de couper, de te reposer en famille. Et à bientôt sur RMC. On espère t'accueillir de nouveau dans les grandes gueules du sport.
Salut,
merci beaucoup, Antoine. Et à bientôt sur RMC. Bravo encore pour cette fin de saison. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la passe olympique sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.